Si seulement nous pouvions confirmer l'histoire de Sinké d'une façon ou d'une autre. Avec des preuves tangibles à l'appui.
L'inventaire.
Ceci ? Celui du Tekora ?
Si vous regardez, il y a une note faite le 10 mai qui apporte correction au nombre d'esclaves à bord en déduisant leur nombre de 50.
Et qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, si vous considérez cela conjointement au témoignage de Sinké, je dirais que cela signifie ceci. L'équipage du Tekora ayant fortement sous-estimé la quantité de provisions requises pour leur voyage, ont résolu le problème en jetant 50 personnes par-dessus bord.
La France a choisi de consacrer désormais la journée du 10 mai aux mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Lors de cette commémoration à Montpellier, plusieurs conférences ont été données. L'une d'elles s'intitulait « Le rôle des églises chrétiennes dans la légitimation de l'esclavage ». Car en effet, l'église, très proche du pouvoir à la grande époque de ce commerce, n'ignorait rien. Doumbi Fakoli, auteur, chercheur en histoire et enseignant à l'Institut Africamat, donnait cette conférence. La première question que nous lui avons posée portait sur l'oubli ou non de cette période, car pendant la campagne présidentielle, certains candidats n'hésitaient pas à dire qu'il fallait maintenant regarder l'avenir, comme si tout avait été dit, compris et digéré.
Moi, je dirais que c'est tout simplement de l'hypocrisie que de dire qu'il faut passer l'éponge et puis oublier cela. Tous ceux qui le disent savent très bien que le temps est un triptyque composé d'un passé, du présent et du futur. Et que ces trois dimensions sont forcément liées. On ne peut pas passer au futur si on n'a pas résolu le problème du passé et le problème du présent. Le problème du présent, il est là. L'Afrique, on le sait, si l'Afrique piétine en ce moment, l'Afrique se débat dans des problèmes énormes. Les conséquences de ces problèmes-là, plutôt les origines de ces problèmes-là, vont à l'esclavage. C'est l'esclavage qui a déstructuré l'Afrique. L'esclavage a enlevé à l'Afrique ses forces vives, a enlevé à l'Afrique ses forces inventives qui sont composées des jeunes et des moins jeunes, etc. Donc l'Afrique est dans une situation qui vient de l'esclavage et ensuite la colonisation qui est une prolongation de l'esclavage. Donc on ne peut pas dire qu'il faut effacer tout cela du revers de la main et puis passer à autre chose. C'est de l'hypocrisie, tout simplement.
Le thème que vous avez développé, donc le rôle des églises chrétiennes dans la légitimation donc de l'esclavage, est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en avant ou pas du tout, selon vous ?
Pas suffisamment. La preuve, jusqu'à présent, les bulles papales qui ont autorisé l'esclavage ne sont pas encore abrogées. Donc, c'est un point sur lequel il faut absolument revenir. Sur lequel il faut avoir des débats.
Eh bien, justement, on va peut-être introduire cette histoire de l'esclavage. Quelles sont, en fait, les origines de l'esclavage ?
Il faut remonter dans la civilisation judéo-chrétienne pour les découvrir. Dans la civilisation africaine, l'esclavage n'existe pas. Vous savez, le sort des citoyens d'un peuple, des membres d'un peuple, dépend de la vision du monde que ce peuple a. Et cette vision du monde que ce peuple a dépend toujours de l'idée que ce peuple se fait de Dieu. L'Afrique, l'idée que l'Afrique a de Dieu, c'est que Dieu est inséparable de sa création. C'est que Dieu et sa création se confondent. Parce que chaque parcelle de la création est une partie de Dieu. L'Afrique dit que la création, que Dieu est à la fois parcelle et totalité de sa création. Donc à partir du moment où l'Africain considère la plante comme étant partie de Dieu, le règne minéral comme étant partie de Dieu, le règne végétal, le règne animal, le règne humain comme étant partie de Dieu, l'Africain dit que l'être humain est sacré dans son essence. Comme l'être humain est sacré dans son essence, il ne peut en aucun cas être réduit en état d'esclavage. Dans la civilisation judéo-chrétienne, c'est l'inverse. Dieu est dissocié de sa création. Dieu est à part. Dieu a créé sa création et l'a confiée à certaines personnes. Les juifs ou les musulmans ou les chrétiens, puisque chacun revendique effectivement seule la reconnaissance de Dieu. Donc Dieu l'a confié à un groupe de personnes et qui a autorité sur les autres. C'est ça justement qui introduit l'esclavage. Donc les deux notions sont fondamentalement différentes. Donc l'esclavage, en Afrique c'est la captivité. Quand il y a guerre, le peuple qui est réduit, qui a été vaincu, devient captif. Et comme ses membres sont sacrés dans leur essence, et seuls derrière les guerriers deviennent captifs. Les autres ne sont pas du tout touchés. Et ils sont reconnus dans leur dignité humaine. Leur force et leur courage militaire a été reconnu sur le champ. Certains rois les intégraient même dans leur armée, dont ils devenaient des généraux. Certains leur confiaient la garde de leur trésor, etc. en Occident, dans la vision judéo-chrétienne du monde, ce n'est pas du tout pareil. Et surtout que dans la vision judéo-chrétienne du monde, Dieu, ayant fait sa création, l'a divisé en trois parties, entre les Sémites, les Indo-Européens et les Africains, dont il a décidé que sont des esclaves et qui seront les esclaves des autres pour l'éternité des temps. C'est cela le véritable esclavage. C'est-à-dire, l'être humain n'a plus sa dignité humaine, l'être humain n'a plus d'autorité sur lui-même, l'être humain devient en quelque sorte une propriété de celui qui le domine et qui en fait ce qu'il veut.
Sinké décrit le meurtre de sang-froid d'un nombre extrêmement important de gens à bord du Tekora. Monsieur Hollabird voit en cela un paradoxe. Et vous, monsieur ?
Souvent, lorsque les négriers sont interceptés ou pensent qu'ils peuvent l'être, ils jettent simplement tous leurs prisonniers par-dessus bord et ce faisant, ils se débarrassent facilement des preuves de leur crime.
Ils noient des centaines de personnes ?
Oui.
Il ne me semble pas que ce commerce d'esclaves soit une affaire très lucrative. Se créer autant de problèmes pour rassembler tout ce monde et le jeter par-dessus bord.
Non, c'est très lucratif.
Si on prend la civilisation athénienne ou romaine, effectivement, il y avait des captifs qui devenaient des esclaves. La démocratie fonctionnait même comme ça. Et donc, c'est bien après, comme vous le dites, la civilisation judéo-chrétienne, avec des arguments théologiques ou métaphysiques, qui ensuite, avec la rencontre du continent africain, ont finalement autorisé l'esclavage.
Oui, tout à fait. Même si à l'époque romaine, ils n'utilisaient pas cet argument-là. De toute façon, à l'époque, c'était des Blancs qui étaient des esclaves aussi. Voilà, pratiquement surtout des esclaves. Et il faut reconnaître aussi que dans l'Église, au premier temps de l'Église, il y avait des papes noirs, dont certains, j'ai oublié le nom, mais il y avait des papes noirs qui existaient. Donc l'Église n'attachait pas trop d'importance à cet enseignement de la Bible. Mais c'est lorsque l'Amérique a été visitée par les Occidentaux, moi je ne dis pas découverte, parce que l'Amérique existait depuis, elle était habitée. Je ne dis pas non plus Nouveau Monde, parce que l'Amérique était habitée. Bon. Donc lorsque l'Amérique a été visitée par les Européens, qui commençaient à avoir une puissance donc navale militaire importante et qui ont trouvé que là-bas il y avait des potentialités agricoles, des potentialités économiques en tout cas formidables dont il fallait profiter. Et c'est en ce moment-là que la nécessité d'avoir une main-d'œuvre vraiment s'est posée. Et on a allié l'argumentation économique à l'argumentation religieuse. Et c'est en ce moment-là que, surtout, les églises chrétiennes ont commencé à utiliser la malédiction de Cham comme étant un argument justifiant l'esclavage du noir.
On peut peut-être préciser ce que c'est que la malédiction de Cham. Là, il faut lire la Genèse, en tout cas la Bible.
La Genèse, chapitre 9, versets 25 et 27, et la Genèse, chapitre 10, versets 7 et versets 32. Là, effectivement, il est très nettement expliqué comment la diversification des races est apparue, et comment la race noire est devenue la race maudite. En plus, bon, là, je crois qu'il n'est pas besoin d'aller à l'université pour comprendre que c'est une histoire franchement enfantine, parce qu'on fait naître la race noire après la race blanche. Or, scientifiquement, il est reconnu que l'humanité entière est descendue de la race noire, qui est la première qui existe sur Terre. Donc, c'est une fabrication, malheureusement, dont l'Église a profité, et je le sais intelligent, beaucoup plus de ces papes, je les sais intelligents pour savoir qu'effectivement c'était une argumentation enfantine, mais ils en ont quand même profité pour justifier l'esclavage du noir.
Aristote l'a dit très clairement, certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres.
À votre avis, c'est ici le cas ?
Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature.
Donc c'est au XVe siècle que les bulles papales ont été produites, donc, notamment par Nicolas V. Il y a aussi une période, puisqu'on parlait de la découverte de l'Amérique, effectivement, qui n'était pas le Nouveau Monde, si ce n'est pour les Occidentaux, il y avait des questions aussi d'ordre théologique qui intervenaient, à savoir, est-ce que ces hommes ont des esprits ? Et je pense que, bon, voilà, c'était vous travaillez plus spécialement sur les Africains, mais il y avait aussi la question qui se posait, est-ce que ces hommes-là sont des hommes, est-ce qu'ils ont un esprit ? Et oui. Est-ce que ça ne légitime pas non plus l'esclavage ?
Non, mais quand on s'intéresse à l'esclavage contre le noir, on doit aussi s'intéresser justement aux origines et aux raisons pour lesquelles cet esclavage-là existe. Donc on est obligé d'en arriver à ce fameux débat-là qu'on appelle la controverse de Valladolid. Effectivement, au cours de laquelle le moine Bartholomé de Casas a réussi à convaincre que les Indiens avaient très bien une arme. C'était en 1551 et que ces Indiens-là ne devaient pas être réduits en esclavage. Et d'autant plus qu'en plus, ils n'avaient pas suffisamment la force physique pour pouvoir faire face aux tâches qu'on leur demandait d'exécuter. Et qu'il y avait d'autres êtres humains, plutôt entre guillemets, parce que ceux-là, bon, ils sont à peine à la limite de l'humanité, c'était des nègres qui étaient maudits et qui pouvaient venir remplacer les Indiens. C'est en ce moment-là, surtout, que l'esclavage anti-noir a commencé à prendre l'ampleur qu'on lui connaît.
Alors, les églises aussi, à cette époque-là, étaient très liées au pouvoir, hein, puisque le roi avait son pouvoir de Dieu. Hein, c'était un droit divin. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas la raison pour laquelle l'Église est rentrée dans le débat ? Parce que maintenant qu'il y a moins de liens entre l'Église et le pouvoir, il y a peut-être moins la nécessité pour l'Église de rentrer dans ce débat et finalement de le laisser au passé.
Oui, à l'époque, il y avait bien une collusion entre le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel en tout cas, et le pouvoir politique, ça c'est clair. Ce sont les Églises qui légitimaient le pouvoir royal, parce que avant qu'un roi devienne roi, il fallait passer à l'Église, effectivement, pour qu'on le bénisse, etc. Donc, les Églises défendaient aussi les intérêts des rois. Et comme les pays occidentaux voulaient s'installer en Amérique latine, bon, il fallait qu'ils aient l'aval de l'Église. Et c'est comme ça que l'Église, effectivement, a profité de ce passage de la Bible pour légitimer l'esclavage anti-noir. Maintenant, effectivement, le problème se pose moins puisqu'il y a une sorte de dissociation. Et puis, maintenant, les gens ont ouvert les yeux. Les gens, on ne peut plus les manipuler en disant « l'Église a dit ceci, donc les rois, les présidents sont autorisés à le faire ». Les gens, maintenant, ont ouvert les yeux, ont compris beaucoup de choses, donc on ne peut plus les manipuler. Mais à l'époque, effectivement, la collusion entre l'Église et la politique était réelle. D'ailleurs, l'Église a aussi profité de l'esclavage, hein, puisque l'Église avait ses esclaves aussi, par la suite, qui construisaient ces églises, qu'elles pouvaient même louer pour se faire de l'argent, etc.
Parce que le thème, donc, c'est le rôle des églises chrétiennes dans la légitimation de l'esclavage. Là, maintenant, quel est le point de vue de l'Église ? Alors, vous avez dit que les bulles papales n'avaient toujours pas été abrogées, donc qu'est-ce qui se passe ?
Oui, l'Église commence en tout cas à faire des efforts. Je crois que le pape Jean-Paul II, avant de mourir, est allé sur l'île de Gorée. Je pense là-bas, il s'est recueilli, il a même demandé pardon. L'Église anglicane aussi reconnaît les torts de l'Église. Il y a des gestes qui commencent à être initiés. Mais je ne sais pas, curieusement, aucune des autorités morales de l'Église, qu'elles soient anglicanes, qu'elles soient catholiques ou chrétiennes, n'a pensé à demander l'abrogation de ces bulles papales. Et je pense que ça, ce sera un acte fort, effectivement, que l'Église ferait, un signe fort que l'Église donnerait si vraiment elle acceptait de franchir ce cap-là.
S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable comme nous, en revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustes. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Ils n'ont construit que quelques huttes. Toute leur activité est physique, c'est certain. Et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis et domestiqués. Des Africains ont déjà fait la traversée.
Oui, Éminence, depuis les premiers temps de la conquête. Ils s'adaptent vite au climat. Ils sont même assez résistants.
Qui les expédie ?
Les Portugais, surtout, les capturent et les vendent. Très cher, d'ailleurs.
Je ne peux évidemment que le suggérer, mais pourquoi ne pas les ramasser vous-même en quantité suffisante ? Vous auriez assurément une main-d'œuvre robuste et encore moins dispendieuse. Je suppose qu'en Afrique, ça se trouve facilement.
Leurs rois eux-mêmes les vendent.
L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition ?
Pourquoi voulez-vous qu'elle s'y oppose ? Est-ce que le roi d'Espagne s'y oppose ?
Éminence, cela risque de devenir très rapidement un grand commerce et de conduire à tous les abus.
À des guerres, à des révolutions. On Sunday when the church bell starts ringing, they're ringing for you and for me. Let's all gather round at the altar and
pray that her soul might be free. I'll meet you at church Sunday morning. We'll all kneel down and we'll pray. We'll pray to the Lord up in heaven. He'll guide us safe home on the way.
Comme vous êtes historien, peut-être avez-vous fait des recherches là-bas en Afrique. Finalement, comment est perçu l'esclavage en Afrique et notamment chez les chrétiens africains, puisque voilà, il y a plusieurs religions en Afrique.
Le problème, c'est que, comme on dit chez nous, tant que le lion n'a pas raconté sa version de la chasse, le chasseur pourra dire toujours ce qu'il veut. Donc, en ce moment, ce sont les chasseurs qui disent ce qu'ils veulent. Ce sont les esclavagistes, ou leurs descendants en tout cas, qui racontent ce qu'ils veulent. Et ils le racontent si bien que beaucoup d'Africains croient à cette version-là. Ils le racontent si bien que beaucoup d'Africains croient que ce sont effectivement leurs grands-pères qui ont vendu d'autres Africains. Et ils l'ont raconté si bien que l'Africain, jusqu'à présent, croit que l'Africain était dans les ténèbres lorsque les Occidentaux sont arrivés, lorsque les Arabes sont arrivés, et qu'ils n'avaient rien du tout, que le mieux, c'est effectivement de suivre ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle, en Afrique, effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui pensent que les Africains sont vraiment à l'origine de l'esclavage, parce qu'ils ne connaissent pas du tout leur histoire. Et c'est ça, effectivement, le grand drame. Il y a eu une conférence épiscopale qui a réuni les évêques, les archevêques, les prêtres de toute l'Afrique et de Madagascar, et qui ont, au terme de leur réflexion, qui sont allés à Gorée même, pour présenter à l'humanité les excuses de l'Afrique et de l'Église. Ça, ils associent l'Afrique, effectivement, aux excuses qu'ils présentent, pas seulement à l'Église. Donc, pour eux, effectivement, les Africains ont vraiment vendu leurs frères.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas, effectivement, quand même des Africains qui vendaient leurs frères?
Non, évidemment, il y a eu des Africains qui ont vendu leurs frères. Vous savez, dans un peuple est composé de deux groupes d'éléments. Ceux qui sont fidèles à leur tradition, ceux qui sont fiers d'être ce qu'ils sont, et d'autres qui sont des brebis galeuses qui trahissent leur peuple. Ça, dans tous les peuples, ça existe. Mais ces brebis galeuses-là représentent toujours une minorité. Moi, je cite toujours le cas, par exemple, des Juifs et de la Shoah. Il y a eu des collaborateurs juifs qui ont fait que les Allemands ont pu faire ce qu'ils ont fait. Mais il ne viendra à l'aide de personne de dire que c'est à cause d'eux que la Shoah a existé, qu'à cause de la chambre de gaz a existé. Parce qu'ils représentent une minorité. Ce sont des traîtres, mais ils représentent une minorité. En Afrique, c'est pareil. Il y a eu des Africains, effectivement, qui ont marché dans la combine, qui ont aidé les Occidentaux, mais c'est une minorité. Donc c'est une hypocrisie que d'essayer de faire croire que c'est parce que ces gens-là ont existé que l'esclavage anti-noir a pu avoir lieu.
Alors, la loi qui reconnaît l'esclavage comme un crime de l'humanité en France porte le nom de Madame Taubira. Madame Taubira qui est guyanaise, est-ce que pour vous c'est symbolique?
Un descendant des esclaves soit effectivement à l'origine de cette loi-là, oui, c'est symbolique, c'est fort, mais ça aurait été vraiment bien si c'était les Africains qui avaient initié cette action-là. Parce que là, ça aurait été un signe fort à l'endroit de leurs compatriotes qui sont descendants de leurs ancêtres déportés. Mais qu'un ressortissant des Antilles, des exilés forcés, soit à l'initiative de cette action, c'est une très bonne chose. Mais je crois que ça aurait été mieux si vraiment c'est les Africains, c'est un Africain ou les Africains qui avaient initié l'action.
En France, l'esclavage fut aboli après la Révolution française en 1794, rétabli sous Napoléon Bonaparte et enfin définitivement aboli en 1848. Certains pays n'ont aboli l'esclavage qu'à la fin du XXe siècle. L'Église pourrait maintenant combattre fermement une forme nouvelle d'esclavage, comme le travail forcé, celui des enfants ou encore les filières de prostitution. Les documents entendus lors de cette émission, le film Amistad de Steven Spielberg et la controverse de Valladolid de Jean-Daniel Verhaeghe.